ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Radio Zone Onde Femme sur 93.8, comme tous les mercredis, en direct dans nos studios de Ferney, de 17h à 23h. Et en tout premier, votre émission de 17h à 18h30, Remue-ménage. Remue-ménage pour la deuxième fois, une émission spéciale consacrée au Festival de la Bâtie à Genève, qui se déroule encore jusqu'au 13 septembre, donc à Genève, dans de multiples lieux. Et vous avez l'occasion de voir beaucoup de spectacles, nous en avons évoqué quelques-uns la semaine passée, nous avons surtout évoqué comment se fabrique un festival en compagnie des quatre femmes qui font partie du comité d'organisation du Festival de la Bâtie. Et puis aujourd'hui, eh bien, d'autres spectacles dont nous allons parler. Le tout premier, c'est La mort de la pitié, qui est proposé par la compagnie de l'Organon. Nous allons passer un moment en compagnie de deux des comédiens et la metteuse en scène. Puis nous donnerons la parole à un spectacle qui évoque elle, mais qui ne pourtant met en scène que des hommes. Une découverte, et ce spectacle se joue encore, donc j'espère qu'à l'écoute de l'interview que j'ai eue avec Michel Barras, metteur en scène, eh bien vous aurez envie d'aller voir ce spectacle. La mort de la pitié, ça ne passe plus, mais je crois que ça vaut la peine de découvrir ce qu'est la compagnie de l'Organon, parce qu'ils ont un mode de travail particulier. Ils rêvent encore de fonctionner comme un collectif de travail et c'est suffisamment rare pour que ça vaille la peine d'en parler, même si, dans le cadre du Festival de la Bâtie, leur spectacle ne peut plus se voir. Et puis surtout, ils ont travaillé à partir d'un texte absolument magnifique de Friedrich Dürrenmatt, La mort de la pitié, et ça vaut aussi la peine d'en causer, même si, hélas, on ne peut plus voir le spectacle maintenant, mais on peut en tout cas acheter le livre si jamais. Le cœur vous en dit. Je vous dirai deux mots sur Grosse et Bête, un spectacle que vous pouvez encore voir au Théâtre du Grütli dans le cadre du festival jusqu'au 13 septembre, mais il se poursuit encore. Malheureusement, je vais demander à pouvoir parler quelques instants avec Michel Glaser, qui est la personne qui interprète la femme de Grosse et Bête, dont vous avez sûrement entendu parler, puisque Grosse et Bête a été un des best-sellers de l'année passée, écrit par Rosemary Burry, cette femme suisse qui évoque ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse et en tant que femme. Eh bien, Michel Glaser avait déjà eu beaucoup d'interviews, en avait marre, n'était pas disponible. Alors, pas de nouvelles de Michel Glaser, pas d'interview avec elle. Mais vous pourrez vous rendre compte du spectacle, vous-même, en allant le voir, juste quelques mots tout à l'heure à propos de ce spectacle. Et puis, je vous parlerai d'un spectacle qui a lieu ce soir, mais c'est une unique représentation. Donc ce soir, mercredi 9 septembre, unique représentation d'un spectacle de et par Denise Stoklos, qui est une, malgré son nom un peu particulier, vous verrez qu'il n'a pas les consonants de son origine. Denise Stoklos est brésilienne. Et elle nous montre un spectacle autour du personnage de Marie Stuart. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer Denise Stoklos avant le spectacle. Je la rencontrerai après, donc je vous passerai l'interview que j'aurai faite d'elle à une autre occasion, la semaine prochaine par exemple. Mais je crois que ça vaut la peine de parler un petit peu de ce spectacle, histoire que vous vous précipitiez à l'Alhambra ce soir à 20h30 pour voir cette unique représentation présentée par une comédienne brésilienne extrêmement renommée au Brésil. Mais tout de suite alors, je vous propose de parler du spectacle de La mort de la pitié qui a été présenté trois fois, entre le jeudi 3 septembre je crois et le samedi 5 si je me souviens bien. Spectacle donc, je vous le disais, qui est présenté par la compagnie de l'Organon. Tous les comédiens membres de cette compagnie sont d'origine suisse-romande. Ils ont travaillé beaucoup en Suisse-romande les uns et les autres. Et à l'origine de la création de ce collectif de travail, comme il se désigne, Simone Audemars, Hélène Firla, Georges Gribitsch. Et les trois sont un petit peu la direction collégiale de ce collectif. Et pour l'occasion de la création de La mort de l'appétit, d'après un texte de Friedrich Dürrenmatt, eh bien, ils se sont adjoints deux autres comédiens, à savoir, excusez-moi, je cherche vite mes noms, voilà, à savoir Marie Perny, la deuxième comédienne, et Jean-Paul Favre, le deuxième comédien. Un cinquième compère, Thomas Baumann, pour les éclairages. Alors, comme je vous le disais, les spectacles sont terminés, vous ne pouvez plus les voir. Mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comment fonctionne ce collectif de travail, l'Organon. Au jour d'aujourd'hui, je le redirai tout à l'heure en leur parlant, c'est une chose assez étrange d'entendre encore parler de travail collectif. Et puis, donc pour cela, je trouvais que ça valait la peine de vous passer malgré tout cette interview, bien que le spectacle ne puisse plus se voir. Et parce que vous pouvez toujours aller acheter le texte de Dürrenmatt, qui vient d'être traduit. Donc si le texte a été écrit en 1977, dans sa version originale en allemand bien sûr, eh bien la traduction vient de sortir aux éditions de l'Âge d'Homme. Donc tout ça, vous faire rencontrer les trois comédiens à l'origine du collectif. Et puis, alors, de quoi parle ce spectacle ? La mort de l'appétit, peut-être pour que vous sachiez tout de suite de quoi on cause quand on les premiers mots de notre entretien. Eh bien, le prétexte du texte de Dürrenmatt, c'est le mythe d'Œdipe. Mais bien sûr qu'il va revisiter largement. Alors, je pense que le mythe d'Œdipe, vous connaissez bien. Mais le spectacle, version Friedrich Dürrenmatt, et mise en scène et réalisée par le collectif de l'Organon, commence ainsi. Sur scène, il y a Panikis, prêtresse de Delphes, Pythie, et qui, comme d'ailleurs pour la plupart des Pythies avant elle, prédire aux hommes leur avenir, c'est une façon de se moquer de leur crédulité. Aussi, quant à la fermeture du sanctuaire ce jour-là, apparut ce jeune homme, prince infatué venu de Corinthe, Œdipe, agacé, Panikis n'hésita pas un instant. Elle lui prédit un destin complètement absurde. La vraisemblance en était si faible qu'elle était bien sûre qu'il ne se réaliserait jamais. Qui au monde serait capable de tuer son père et de coucher avec sa mère, puisque vous savez que c'est ça qui était prédit à Œdipe. Alors tout de même, regardant par-dessus les vapeurs qui la cernaient, puisque la Pythie était sur un trépied au-dessus d'une faille d'où émanaient des vapeurs qui la protégeaient tout juste des horribles rhumatismes qu'elle attrapait dans cette grotte froide et glacée, eh bien, elle vit le jeune prince Œdipe blêmir et s'éloigner très maladroitement dans une direction qui n'était pas du tout celle d'où il était venu, à savoir Corinthe, parti dans une autre direction, celle de Thèbes. Et elle éprouva un léger malaise, mais, mon Dieu, vite dissipé. Le jour tombait, Mérops 27, le grand prêtre, fermait les portes. Elle oublia Œdipe. Mais bien plus tard, alors qu'un certain soir, elle admirait le paysage et le coucher du soleil, tout à coup, elle sentit une ombre près d'elle.
Je ne te connais pas.
Tu m'as prédit ma destinée.
Cela se peut. J'ai prédit ta dépouille de gens.
Ton oracle s'est accompli. J'ai tué mon père, Laios, et épousé ma mère, Jocaste.
Amikis considéra la femme, puis la jeune fille en haillon, se demandant avec ne se souvenait toujours de rien.
Jocaste s'est vendu.
Toutes mes condoléances.
Et alors, je me suis crevé les yeux.
Ah ah, je vois. Et elle, qui est-elle ?
Demanda-t-elle ? Non pas par curiosité, mais simplement pour dire quelque chose.
Antigone, ma fille. Ou ma sœur.
Puis il se lança dans une histoire embrouillée. La Pythie, les yeux maintenant grands, n'écoutait que d'une oreille, le regard ne pouvait fixer sur le retirant des rentelles, se mentionnant au bras de sa fille, qui est en même temps sa sœur. Puis, saisissant subitement la situation, se rappelant de son nom, acquérir et dit une fois pour toutes de sa crédibilité par les dispartites d'un rire formidable, si formidable qu'il s'amplifia démesurément sans plus tarir.
Je suis en compagnie de l'Organon, qui est une troupe de théâtre assez particulière, nous allons en parler tout de suite, mais surtout en présence de Simone Audemars. Vous êtes la metteuse en scène du spectacle cette fois-ci, c'est ça?
Cette fois-ci, c'est ça.
Donc on précisera pourquoi cette fois-ci. Et avec, il y a quatre comédiens dans le spectacle, quatre comédiens-comédiennes, deux comédiennes, Marie Perny et Hélène Firla, c'est Hélène qui est présente avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et puis deux comédiens, Georges...
Grbitch.
Oui. Et Jean-Paul Favre, et c'est Georges qui est dans notre compagnie.
Voilà.
Alors, c'est effectivement, quand on pourrait tout de suite présenter ce que c'est que l'Organon, parce que vous vous définissez comme étant une compagnie qui a l'intention d'être ensemble, d'être un collectif de théâtre, ce mot qui, après toutes ces années, paraît bizarre encore dans le monde du théâtre. Qui croit encore au collectif de théâtre? Et vous? Alors, pourquoi, comment? Qui répond? Hélène?
Mais nous sommes un peu, je dirais, nostalgiques des grandes aventures théâtrales qui ont marqué les années qui nous ont précédées, au TNP, au Piccolo, et nous croyons profondément que, malgré la dureté de notre époque et l'isolement dans lequel se trouvent les gens, c'est précisément de cela que les artistes ont maintenant de nouveaux besoins, et ainsi que le public. Parce que nous croyons, enfin, j'espère que je ne trahis pas, mais... mes amis, que le théâtre est un service public et que c'est encore un des derniers endroits où on peut rencontrer les gens de la ville et s'interroger avec eux au moyen de la représentation sur ce que c'est que le monde et notre place à l'intérieur de ce monde.
Parce que donc effectivement, vous en êtes à penser que l'essentiel, l'essence de votre travail en tant que comédien, comme artiste de théâtre, c'est de proposer un débat d'idées. Ça, c'est aussi une chose qui existe de moins en moins dans le théâtre aujourd'hui.
Moi, ce que j'aimerais aussi dire pour étoffer ce que dit Hélène, c'est que travailler ensemble permet d'aller plus loin. C'est qu'actuellement, on se trouve dans des productions qui sont des productions énormes, avec des gens qui viennent de beaucoup d'horizons différents, et qu'on se rend compte que les gens ne peuvent pas faire un véritable travail en profondeur dans leur pratique théâtrale, mais aussi dans leur réflexion sur le monde, et que le débat d'idées, il ne peut intervenir que par une connaissance commune d'individus, mais aussi d'un propos qui se développe au cours de travaux successifs.
Oui, pour ajouter, je dirais aussi, c'est vrai que la notion de collectif a beaucoup disparu pour des raisons souvent pratiques, parce que financièrement, c'est très difficile de tenir un projet de longue haleine, mais c'est justement pour ça que c'est intéressant de se mettre contre ça, de dire que malgré les problèmes financiers, il faut continuer à défendre malgré tout une notion où des gens peuvent rester ensemble. À long terme.
Qu'est-ce que vous voulez dire par rester ensemble et rester ensemble à long terme? Ça veut dire que vous travaillez à longueur d'année, même si vous n'êtes pas en train de préparer un nouveau spectacle?
Nous sommes en train de préparer un nouveau spectacle. Et oui, rester ensemble à longueur d'année, c'est travailler aussi sur l'acharnement, sur l'objet théâtral avec les mêmes gens, sur le phénomène de la répétition. C'est ardu. C'est fatigant, c'est lassant, mais c'est comme ça qu'on trouve peut-être un jour une grâce dans la représentation. C'est parce que on se connaît de mieux en mieux et qu'on se pratique de mieux en mieux. Je crois que oui. Enfin.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait 2 ans que le collectif existe, qu'il est sa naissance s'est faite en découvrant le texte du Renmat. Et que ça fait 2 ans qu'on travaille pratiquement tout le temps ensemble. Et qu'on a produit La Pitié, mais en même temps, parallèlement à ça, on a fait des laboratoires de travail fermés, Mais il y a une continuité comme ça sur l'année.
Qu'est-ce que vous appelez laboratoire de travail?
C'est-à-dire qu'on a mis en place pendant 2 mois, 2 fois de suite, un laboratoire de recherche sur des textes, sur des futurs projets. La Pitille a bénéficié de ça. On a fait un laboratoire de recherche avant de mettre véritablement en place un temps de répétition. Là, pour le prochain spectacle que nous allons faire en janvier prochain, on a travaillé pendant ce printemps 2 mois ensemble, enfermés, quoi. Sur la pratique, essayer de savoir ce qu'on pourrait bien faire. Enfin, on a essayé de proposer une maquette de notre prochain spectacle.
Mon père était l'officier de la garde. Des hypers, un bavard, doué de facultés ahurissantes, dans un domaine où il n'avait plus besoin de parler.
Il me semble qu'actuellement la situation est difficile, non pas tant par le fait qu'il n'y a pas de travail pour les comédiens d'ici, c'est pas un détail, c'est très important et très dramatique, mais surtout du fait qu'il n'y a plus de pensée longue, de projet de pensée dans le théâtre ici, c'est-à-dire que les gens courent au cachet et on entend de plus en plus dire... La saison prochaine, j'ai 2 coups, j'ai 3 coups. Ah oui, c'est quoi comme texte? Et les gens savent à peu près répondre, mais c'est tout. Il y a une espèce
de nivellement, je trouve. Il y a un manque d'intérêt.
Par le bas,
ouais. Et puis c'est vrai que le théâtre en Suisse romande a une histoire très courte, qu'on ne peut pas comparer notre histoire à celle de la France, non. Et que je trouve qu'on est au bout d'une courbe, on sent que les choses redescendent, il y a un niveau, je trouve, qui baisse. Quand même, ça c'est un avis très personnel, mais je trouve que le niveau baisse parce que le métier de comédien n'est plus considéré comme un travail artisanal, donc un travail laborieux, difficile, souvent contraignant, mais combien merveilleux quand tout d'un coup il y a surgi le moment de la représentation que tout le monde a réussi à comment dirais-je, digérer toutes les informations et peut le rendre sur le plateau.
Alors peut-être attachons-nous directement effectivement au spectacle que vous nous montrez dans le cadre du Festival de la Bâtie 1992, donc La mort de la Pitille, un texte qui est écrit par Friedrich Dürrenmatt, qui a été traduit récemment, texte qui n'est pas du tout un texte de théâtre. Mais ça faut peut-être poser ça au point de départ. Vous disiez, je crois, quelque part, que le théâtre, ça peut servir à représenter un certain nombre de vérités, mais aussi à bousculer les vérités auxquelles, d'habitude, une majorité croit, et c'est peut-être à ça que peut servir le théâtre. Alors, dans quelle mesure vous avez utilisé le texte de Dürrenmatt? C'est vrai qu'il est terriblement provocateur à maintes reprises, il s'empare d'un mythe que l'on vénère encore hautement aujourd'hui dans toute la psychologie enfantine et qu'on croit très bien connaître, et tout à coup on découvre des pages cachées d'interprétations très très différentes. Alors en quoi pour vous ce texte écrit par Dürrenmatt, ce mythe tellement connu auquel vous prenez avec lui, sert à bousculer les vérités?
C'est-à-dire qu'au départ, pour prendre l'ordre, c'est un texte qui n'est pas théâtral, mais c'est aussi le désir de la démarche de l'organon. On commence, le tout début du théâtre, c'est la fonction première du théâtre, c'est raconter une histoire, donc un récit correspondait tout à fait à ça. À partir de là, il fallait se poser la question, qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que la scène pouvait apporter à ce texte? Est-ce que la scène devait être nécessaire pour ce texte? Et ce qu'il y a de formidable, c'est que la scène apporte ce que raconte également ce texte, c'est-à-dire que Dürrenmatt retravaille le mythe d'Édipe, enfin re-questionne le mythe d'Édipe en essayant de prendre le point de vue de chacun des personnages. Ce qui fait que dans n'importe quel événement, chacun vit l'événement d'une certaine manière, avec son interprétation, et qu'à chaque point de vue, la vérité, entre guillemets, peut se transformer, peut devenir différente. et ce qu'il y a je crois, de formidable, parce que la scène peut apporter à ce texte, c'est justement une multiplicité aussi d'interprétations. La manière de dire telle ou telle phrase ou d'enchaîner telle et telle phrase sur une rupture ou sur un mode différent peut, à chaque phrase qui peut sembler banale, reposer une question et remettre en doute ce qui vient de se dire avant, juste avant.
Oui, je crois qu'il y a plusieurs protagonistes qui ont une grille de vision sur le monde et que la confrontation de toutes ces grilles de vision nous perturbe, nous bouleverse les certitudes qu'on a sur ce qu'on croit être la vérité ou sur ce qu'on croit connaître du monde. Et ça nous interrogeait profondément parce qu'on croit que le théâtre, s'il a sa place encore, c'est pour essayer de nous perturber, de nous choquer, de nous interroger. Et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup touchés dans ce texte-là. C'est vrai que le mythe d'Édipe, on croit le connaître, et c'est vrai qu'à la lecture du texte ou à l'écoute de la représentation, on est complètement bouleversé par ça, parce qu'on se dit, je crois maintenant saisir l'histoire, et chaque nouvelle intervention bouleverse le jeu à nouveau. Et ça, c'est très très important.
Peut-être qu'il faut juste dire pour nos auditeurs et auditrices que, effectivement, on a le personnage principal, c'est la Pictie, qui a prédit cet oracle à Œdipe en croyant faire un gag monstrueux parce qu'elle l'avait repéré comme terriblement crédible, donc elle lui met n'importe quoi pour lui faire heurter sa crédibilité.
C'est une fonctionnaire, la Pictie. Elle n'a jamais réfléchi. Et un jour, elle décide, parce qu'elle est lasse, fatiguée et qu'elle en a marre, d'essayer de soigner ce jeune grec qui se présente à elle et de lui prédire un oracle absolument abracadabrant. Sa surprise va venir lorsque ce jeune homme devenu âgé revient, la trouver, lui dit « mais en fait cet oracle s'est accompli ». Et à partir de là, elle se met à réfléchir et elle mène l'enquête.
Parce qu'elle ne veut pas mourir idiote quand même.
Non, non, non.
Elle a une lucidité dernière minute. Si elle s'est fait manipuler pendant toute son existence, et elle nous le raconte, on découvre ça par Dürrenmatt, la Pictie est manipulée tout le temps, où elle s'amuse.
Par des politiciens qui abusent quand même de sa vieillesse et de son talent, de ses talents d'imagination, quoi.
Et elle va voir, à la veille de sa mort, défiler tous les protagonistes du mythe qui vont donner chacun leur version de l'histoire. Et là, on découvre la fantaisie absolument hallucinante de Dürrenmatt qui imagine des choses insensées à propos des personnages et des faits de ce mythe.
Oui, mais ce qui est très fort de la part de Dürrenmatt, c'est qu'en fait, il ne bouleverse pas le mythe disons que les bases du mythe ne sont pas changées, puisque finalement, il y a toujours un fils qui épouse ou qui couche avec sa mère et qui tue son père. Sauf que le problème, il se trompe chaque fois de père et de mère. Enfin, il croit épouser sa mère alors que ce n'est pas sa vraie mère, mais par contre, effectivement, il couche avec sa vraie mère en ne sachant pas que c'était sa mère. Enfin,
donc, comment peut-on savoir chez ces nobles, comme elle dit, hein?
Ah oui, c'est ça. Oui, oui.
Alors, cette fois-ci, j'étais metteuse en scène. Ça veut dire quoi? La prochaine fois, vous serez comédienne, c'est quelqu'un d'autre qui sera metteur en scène?
La prochaine fois, je le serai, mais après, je ne sais pas. Il s'est trouvé que, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que quand on a fait un premier laboratoire de travail sur la mort de la Pictie, nous étions que les trois, parce que nous voulions essayer de savoir si ce texte pouvait être porté à la scène, et qu'on s'est retrouvés les trois sur le plateau, et que c'était absolument impossible de relancer le travail. Et puis, Au cours du travail, je suis sortie du plateau pour me trouver face à eux, et puis je suis restée à l'extérieur. C'est aussi par hasard.
Que de hasard dans ce spectacle qui raconte toute l'histoire, parce que finalement, c'est aussi pour juste terminer avec le mythe, c'est finalement la conclusion du mythe qui a eu raison. C'est la Pictie qui a inventé n'importe quoi à un moment donné et qui s'est réalisée alors que ceux qui croyaient
préparer des oracles avec raison et réflexion, rien ne se réalise comme il croit.
Je crois que ce que dit Duronmat juste avant d'écrire la pitié, c'est qu'il dit qu'on ne peut pas interroger le mythe d'Édipe puisque Édipe est régi par une destinée, les dieux sont présents. Alors il dit, mais si on essaie d'ôter les dieux, comment est-ce qu'on peut remplacer les dieux pour savoir ce qui se cache derrière Édipe? Et il fait intervenir le hasard. Et si le hasard intervient, on est obligé de se poser la question, d'interroger l'homme avant toute autre chose, avant les dieux. Et ça, c'est une grande subtilité de sa part.
En plus, on sent une satire contemporaine incroyable dans ce texte. À tout bout de champ, il évoque justement la notion de vérité, la notion de pouvoir, la notion de manipulation, de démocratie, de dictature. Tout y passe. À chaque minute, on sursaute de voir comment il a imaginé profiter de cette histoire, de ce mythe gigantesque pour parler du monde dans lequel on vit.
D'autant plus que Duronmat a toujours eu un point de vue extrêmement critique sur la Suisse, tout en y restant, mais c'est enfin, qui était, je dirais, avec beaucoup de bonheur, très critique sur son pays, sur le politique. Et ça, on le ressent dans toute son œuvre, mais on le ressent très très bien dans le discours de Tirésias, notamment, qui est le politicien, le grand manipulateur, qui a dicté les oracles à la pitié la plupart du temps.
Et qui doit avouer qu'il a échoué.
Qu'il a échoué aussi, lui a voulu essayer de construire le monde selon ses désirs, de le diriger, de le manipuler, et puis il était court-circuité par l'imaginaire de cette femme qui a bouleversé ses cartes.
C'est important aussi pour le collectif Organon d'évoquer ces problèmes-là par rapport à la Suisse, par exemple. C'est pas un hasard que ce soit Duronmat que vous ayez choisi comme premier texte.
Ça, c'est pas un hasard. Non, je crois pas que c'est...
Non, disons que le livre est sorti au bon moment, quoi. puisqu'on l'a tout de suite trouvé à sa parution, parce qu'en fait, c'est un texte que Duronmat a écrit bien avant, en 77, donc...
Qui vient d'être traduit.
Mais qui vient d'être traduit et d'être édité à l'âge d'homme et Falois.
Traduit par Michel Levrac, très bonne traduction.
Donc pas de hasard derrière le choix de cette texte.
Non, je crois pas. Je crois que c'est vrai que, enfin, il y a plusieurs. Il me semble que cet objet, la création de ce collectif, a réuni tout d'un coup beaucoup de choses à la fois. C'est vrai qu'on a décidé un jour on a pensé partir ailleurs aussi, essayer d'exercer notre profession ailleurs. On s'est dit que c'était très important de rester aussi pour essayer de proposer quelque chose ici de qualité, quitte à sortir après. Et Duronmat nous paraissait important, quoi. C'est un auteur très important, c'est un auteur qui est resté ici, mais dont le discours a porté très loin. Et on était très très près de cette pensée-là, quoi. Ça a focalisé notre travail, quoi, notre désir de s'unir.
Par rapport au récit, par rapport aussi au thème qui était traité de l'Antiquité, du questionnement sur les origines, sur la mythologie, et puis en même temps, ce qui était formidable, c'était un texte justement qui traitait d'une contemporaine qui avait des thèmes contemporains. qui a des thèmes très contemporains par rapport à la politique. Et puis c'était surtout un tremplin pour lancer tout un imaginaire sur le théâtre. Grâce à ça.
Oui, voilà. Origine du mythe, origine du théâtre, origine de l'homme. Enfin, on remonte très loin pour essayer de comprendre où on en est.
c'est